En première partie d'émission, place à une nouvelle exposition rétrospective au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny, qui débute aujourd'hui et qui nous permet de découvrir ou redécouvrir une des rares femmes de son époque, hein, à s'adonner à la gravure, et ça permet aussi de prendre connaissance de toute son expertise qui lui a donné le titre d'ailleurs de maître graveur. Alors, une artiste trop méconnue du grand public et donc une exposition qu'on pourrait dire pertinente pour la faire connaître, intitulée « Regards croisés sur une œuvre inachevée ». Eh bien, à mes côtés, je retrouve avec grand plaisir Pierre Archambault, qui, tout comme moi, s'est rendu au vernissage de l'exposition lundi soir passé. Alors, ça va bien, Pierre?
Oui, ça va, oui.
Alors, une exposition qu'on pourrait qualifier de consistante.
En quantité, oui.
Oui.
En quantité.
Alors, tout d'abord, peut-être nous parler un peu, qu'est-ce que tu souhaitais peut-être débuter?
Quelques notes biographiques.
Oui, c'est
d'abord,
ça
elle est née en 1927,
oui.
Donc ça lui donne 90 ans. Elle est née à Saint-Hermas, au Québec. Je ne sais pas où c'est situé exactement. Alors, elle a fait des études à l'École des beaux-arts dans les années 50, de 50 à 58, période où les cours étaient surtout académiques. Et rappelons qu'il y a Paul-Émile Bourdieu, qui était l'avant-gardiste des arts au Québec et qui, lui, a enseigné à l'École du meuble.
Oui.
Parce qu'il considérait que les beaux-arts étaient trop académiques, justement, qu'il n'y avait pas assez de liberté. Et c'est à partir de 1960 qu'elle expérimente les techniques de l'estampe, période aussi où Albert Dumouchel enseignait, lui, diverses techniques d'impression, y compris la sérigraphie et la lithographie, qui étaient en fait des nouvelles formes artistiques d'impression au Québec. Et Jeannine Leroux a été membre aussi de l'Association des peintres graveurs qui était instaurée en 1960 et qui a donné suite aussi aux éditions Les Imagiers qui conjuguaient estampes et poésie avec entre autres les poètes Gilbert Langevin, Gaston Miron et Jacques Brault. Donc il y avait cette petite clique d'artistes qui se réunissaient régulièrement. Et entre
1960... par la suite fort inspiré hein, pour se faire la poésie, la littérature,
ouais.
C'est ça?
Oui. Et c'est donc entre 1959 et 2000 qu'elle fait plusieurs stages à l'atelier Frélo La Courrière à Paris.
À Paris, voilà.
Donc, ouais. Soit pour perfectionner ses techniques et aussi pour imprimer ses plaques gravées qu'elle apportait avec elle.
Parce que c'était nécessaire qu'elle se rende là au départ les premières années, hein, à l'atelier.
Ben,
c'est ce que le conjoint m'expliquait.
Oui. Ouais, parce que c'était peut-être la mecque de la gravure en Europe. Alors, Pierre Guillon, lui, qui est maître imprimeur d'origine française, va devenir son compagnon de vie et il va travailler conjointement avec Jeannine pour imprimer et magnifier aussi
les
plaques. C'est le rôle de l'imprimeur d'augmenter, d'ajouter des détails plus pointus, disons, à l'œuvre d'un artiste.
Un imprimeur qu'on qualifie d'artisan aussi, artisan imprimeur.
Ah oui, c'est un métier d'artisanat qui demande la patience. Et parmi les publications auxquelles elle participe avec ses œuvres visuelles, en 1980, il y a 24 murmures en novembre, qui sont des textes de Jacques Brault. Et en 1983, il y a Les Brûlis.
Le Brûlis, hein.
Qui contenait des poèmes de sa sœur Hermine et qui relate, entre autres, l'histoire tragique des patriotes de Saint-Eustache en 1837. Donc, elle a participé
magnifique,
à ces
magnifique, que j'ai apprécié de voir sur place.
Publication-là.
Oui.
Alors, pour en venir aux techniques qu'elle a utilisées, elle a uniquement utilisé, à ma connaissance, des techniques en creux. Elle n'a jamais touché à la sérigraphie ou à la lithographie. Donc, il y a la xylographie. Xylographie, c'est en fait de la gravure sur bois.
Oui.
Et quand on dit gravure sur bois, il y a deux types de bois. Il y a le bois debout et le bois couché. Elle préférait, semble-t-il, le bois debout, qui est beaucoup plus dur, difficile à creuser. Et en ce qui concerne les eaux fortes, il y a des techniques de pointe sèche, taille douce, aquatinte et manière noire qu'elle a aussi utilisées. Donc, c'est pour...
On dit qu'elle excellait dans la manière noire.
Oui, tout à fait. Pour les auditeurs, sans doute ceux qui connaissent Albert Dürer, Albrecht Dürer, c'était le grand maître de la gravure sur bois. Et d'ailleurs, cette technique-là date de la fin du Moyen-Âge. Ben c'est oui. la plus ancienne des techniques d'impression. Est venue plus tard la gravure sur cuivre, sur métal, qui a permis de développer différentes textures sur les images.
Elle travaillait justement sur cuivre, là, des grands formats, hein, travaillait de grands formats.
Des grands formats, entendons-nous, là, parce que grand format, j'ai vu des Américains qui avaient des plaques de plus d'un mètre, des fois même deux mètres, alors qu'elle, ça se maintient autour de
moyen format,
60 cm.
Okay.
C'est des formats normaux, je dirais. Elle a aussi expérimenté la peinture, l'aquarelle, le collage, le dessin et la sculpture, mais disons, en petite quantité comparée à son œuvre gravée qui est beaucoup plus importante.
Et c'est surtout des œuvres des premières années qu'on voit dans la peinture, l'aquarelle, des œuvres des premières années.
Ben, il y a beaucoup de...
Mais on la qualifie tout de même d'artiste multidisciplinaire, qu'en dis-tu?
Ben ça, personnellement, non, parce que quand on qualifie un artiste multidisciplinaire, c'est qu'il a fait à la fois soit de la sculpture, de la peinture et de la gravure. Maintenant, ben évidemment, il y a les nouveaux médiums qui s'insèrent là-dedans, là. Mais elle s'en est tenue principalement à son œuvre gravée. C'est vraiment ça l'essentiel de
son travail. C'est sa majeure, bien sûr.
Évidemment, comme j'ai mentionné, il y a plusieurs techniques à l'intérieur de la gravure sur métal, mais on ne peut pas appeler ça multidisciplinaire, parce que ce ne sont pas des disciplines différentes.
Mais tout de même, on voit des œuvres dans d'autres médiums, c'est ça, d'autres techniques, pardon.
Alors, pour compléter là-dessus, c'est principalement sur cuivre qu'elle a travaillé, donc les plaques de cuivre, c'est assez coûteux, ça coûte cher.
Il faut, c'est ça que je m'expliquais, puis il faut rentabiliser cet investissement-là.
Oui, ben, ce qui permet de rentabiliser, c'est le multiple, c'est qu'on peut imprimer plusieurs exemplaires de la même image. On peut aussi imprimer avec le zinc. C'est un peu plus rare, mais ça se fait aussi sur zinc.
Et c'est peut-être le lien à faire avec le titre, là, une œuvre inachevée, qui a encore bien des impressions à faire. Et qu'il faudra encore davantage à découvrir. Mais il y a une thématique, en tout cas, qui est omniprésente, qui est récurrente dans son œuvre.
Oui, c'est la nature. Ça, c'est omniprésent. D'ailleurs, tous les deux aimaient beaucoup aller s'évader à la campagne, dans les boisés ou sur des lacs, faire la pêche, se promener dans les bois quand le loup n'y est pas.
Un couple apparemment en apparence très uni, hein, encore plus uni dans la nature, je croirais.
Tout à fait. Elle avait un côté un peu sauvage. Moi, je l'ai connue vers la fin des années 70, là, puisque j'ai suivi des cours à son atelier.
Il faut le mentionner, que tu étais un élève de Janelle Leroux-Guillon.
Alors, c'est ça, c'était pas des mondains qui fréquentaient les vernissages et tout ça, sauf évidemment quelques-uns de leurs amis, là, mais ils étaient plutôt limités dans leur
réseau social.
Dans leur réseau social,
artistique.
Tout à fait.
Mais oui.
Ce qui fait aussi peut-être que l'évolution n'est pas très évidente dans son travail. Ça tourne toujours autour des mêmes façons de faire. Et quand on parle évidemment de nature...
Et son œuvre n'a pu se faire beaucoup connaître parce qu'elle n'était pas axée beaucoup sur sa promotion, peut-être.
Étant donné qu'elle ne fréquentait pas vraiment le milieu, elle était un peu en vase clos. Donc, ça se paye, cette réclusion-là.
C'est pour ça qu'elle n'a pas pu avoir beaucoup d'évolution, là.
Ce que je voulais dire, c'est au niveau de la nature, comment elle, faisait œuvre à partir de la nature, c'est qu'elle s'influençait beaucoup des branches d'arbres, des racines et des feuilles.
Oui.
C'est les trois éléments de la nature qu'on retrouve principalement dans ses images, dans ses compositions.
Mais il y a un
peu très entremêlées. Et souvent, je trouve un peu confus. C'est un peu surchargé, ces images.
Oui, c'est un aspect dont on va parler un petit peu plus tard, mais il y a aussi quand même, on dit qu'il y a du mysticisme dans ses œuvres. Qu'en dis-tu? Il y a quand même des œuvres qu'elle a créées, magnifiques. Je pense qu'il y en a une en particulier. Là, Antoine va en reparler un petit peu plus tard, mais quelques œuvres magnifiques qui ont été créées dans les années 50, inspirées de la religion.
Ah oui, si on parle de ça, mais ça, c'est vraiment des œuvres mineures qui étaient, disons, la période d'apprentissage, ouais, de travail.
Ça. Préparer des...
Mais dans son travail plus tardif, plus récent, je ne vois pas vraiment de mysticisme là-dedans. Là.
Mysticisme.
C'est vraiment la nature telle qu'elle est, en fait, sans au-delà, on sent pas l'esprit de la nature ou, je sais pas, moi,
le spirituel,
ouais, c'est pas évident, en tout cas.
On voulait peut-être ajouter que, parler un peu des couleurs, quand même, il y a une maîtrise des couleurs.
Oui, en fait, il y a très peu de couleurs pures. C'est souvent des tons dilués et surtout du noir sur blanc,
oui,
qu'elle a utilisé. Alors, je la qualifierais pas de coloriste, mm-hmm, comparé à bien d'autres, mm-hmm, graveurs qui, eux, utilisent vraiment la couleur à plein escient, ce qui est pas vraiment son cas. C'est un travail parfois qui... disons, il y a une certaine naïveté, je dirais. Et d'ailleurs, je veux souligner quelques titres, puisqu'elle fréquentait les poètes, qui donnent une idée un peu de son esprit littéraire. Entre autres, « Cette jungle qu'est la vie », ça c'est un des titres, « Le fol amour »,
oui,
« Rédemption des saisons »,« Forêt ribambelle ». Alors, on voit que c'est un peu naïf, en fait.
Ouais.
La croule du printemps, on sent pas un esprit vif qui essaie d'éclairer son œuvre. On sent que c'est des...
Un émerveillement devant la nature.
Des titres, ouais, un peu spontanés, là, qui restent... qui se veulent poétiques,
oui,
mais qui...
c'est peut-être à un niveau.
C'est vraiment empreint de naïveté, je dirais.
Bon, d'accord. Alors...
Et en ce qui concerne le montage de l'exposition...
Oui, ben peut-être mentionner que Jeannine Leroux-Guillaume, elle a travaillé quand même une carrière de 75 ans. C'est quand même, mm-hmm, considérable. Mais elle s'est retirée de la vie artistique depuis 5 ans. Moi, je l'ai rencontrée il y a quelques années, à Repentigny d'ailleurs, où elle avait participé à une autre exposition de plusieurs graveurs réunis. Elle souhaitait à ce moment-là faire une entrevue, mais là, elle est vraiment retirée, puis hospitalisée. Hein? Elle a des problèmes, je pense.
Cognitifs.
C'est ça. Mm-hmm. Donc, voilà. De là, son absence lundi soir, bien sûr, au vernissage. Parlons, mm-hmm, maintenant, justement, Pierre, de l'exposition qui est présentée. C'est comme j'expliquais en début, c'est consistant. Il faut prendre un bon 2 heures, mm-hmm, pour voir cette exposition-là. C'est une œuvre colossale.
Si on regarde, ouais, la liste de titres des œuvres, j'en ai compté 60.
60, et
mais je crois qu'on n'a pas mentionné les œuvres de l'École des beaux-arts et de l'apprentissage. Mais quand on entre dans la salle, moi, j'avais l'impression qu'il y en avait au moins 120.
Ben oui.
À cause du montage que je considère amateur, mm-hmm, et qui crée une confusion parce que les œuvres des années 60 sont à côté d'œuvres de 1980, 1970, à côté de 90. Alors, c'est vraiment... pas très logique comme montage. En plus,
mais la commissaire m'a mentionné qu'elle avait réuni les œuvres selon des thématiques.
Ben, je ne vois pas les thématiques.
Non.
C'est toujours la même thématique. Mm-hmm. C'est toujours la nature. C'est toujours des branches, toujours des feuilles, mm-hmm, et des racines. Je vois pas les différences de. J'ai refait le tour après que tu m'aies dit ça et vraiment, je ne vois pas les thématiques là-dedans.
Et peut-être qu'on a accordé trop d'importance aux premières œuvres aussi, hein.
Ça aurait dû être élagué, oui, un peu plus épuré. Mm-hmm. D'ailleurs, la surcharge mène toujours à une certaine confusion de l'énergie des œuvres elles-mêmes, mm-hmm, et chez le spectateur aussi. Alors, c'est pour ça que je qualifie ce montage un peu amateur.
Par contre, c'est dommage parce que cet accrochage-là, qui ne met pas en valeur les œuvres suffisamment, ben, ça fait en sorte qu'on apprécie moins les bonnes œuvres qu'on peut retrouver dans l'exposition. Ouais, c'est ça. Alors, on aurait. C'est le rôle d'une commissaire de pouvoir vraiment élaguer puis de mettre en valeur les meilleurs de la production artistique. Mm-hmm. Oui.
Et en plus, évidemment, des encadrements très variés parce qu'il y en a qui appartenaient à la famille ou à des amis. Donc, il y avait. Et souvent, les œuvres sont superposées une au-dessus de l'autre. Alors, non, il y a vraiment une surcharge qui ne rend pas justice.
Mais oui. Il y a quand même quelques œuvres, en tout cas, moi, que j'ai grandement appréciées. Oui. Hein. Bien sûr, on parlait, évidemment, le livre Les Brûlés, excellent, excellente section hein, pour découvrir les petits
dans
formats.
Des vitrines.
Ben oui, c'est excellent. Et il y a vraiment des œuvres des années 60 qui sont excellentes, hein, comme La Chasse-Galerie, du bois de fil noir, Il y a des œuvres des années 70 aussi qui sont intéressantes, comme Dernière tendresse, que j'ai beaucoup appréciée. Vraiment, toi, tu avais beaucoup, beaucoup aimé, je pense, les trois œuvres de La Vierge au rocher, en 1960.
Ah oui, oui, oui. Oui, ça donnait une idée des différents types d'impressions et sur un même thème. J'appellerais ça variation sur un même thème. Et la composition était excellente aussi en triangle avec les trois personnages. Là. Oui, ça, c'est un beau travail.
C'est ça. Et la vitrine avec les plaques est magnifique. Hein? Une vitrine avec des plaques magnifiques.
Ah oui, oui. Mais ça, c'est toujours séduisant de voir la plaque elle-même gravée, le métal gravé. C'est souvent plus intéressant que le produit fini sur papier.
Alors, vraiment, il y a des belles trouvailles à faire. Moi, j'ai beaucoup aimé le Fol Amour, justement, tu mentionnais le titre. Fol Amour, 1993, collage mix. Moi, j'ai trouvé ça très inspirant. Les séries de photos aussi, vraiment, qui nous plongent dans l'époque. Là. Moi, j'ai été vraiment captivée par les photos. Plusieurs photos ici et là de Jeannine Leroux, de son conjoint. Moi, j'ai bien aimé les photos. Je vois que tu ne sembles pas aussi convaincue.
Non.
Mais finalement, il y a des belles œuvres à découvrir. C'est dommage qu'elles ne soient pas bien disposé, présenté. C'est ça qui est dommage. Mais il faut quand même aller découvrir l'œuvre d'envergure, Pierre, de cet artiste-là.
Ben, ça permet
Il faut être avisé de ce qui nous attend.
Oui, tout à fait. Ça permet de découvrir, pour ceux qui ne la connaissaient pas, cet artiste qui a surtout eu ses heures de gloire dans les années 60. Là.
Et qui est enseignante en plus.
Et qui est enseignante, oui.
Ben oui. Alors, c'est une exposition, donc, à voir... selon l'intérêt et selon votre disposition, votre disponibilité au Centre d'art Diane Dufresne, regard croisé sur une œuvre inachevée. On a quelques petits bémols, mais je pense qu'il y a quand même des belles découvertes à faire. Donc, Jeannine Leroux-Guillaume et Pierre Guillaume, donc en vedette, commissaire Nathalie Vallade, c'est jusqu'au 18 mars. Et soyez avisés qu'il y a des visites commentées bientôt à 14h, le 10 et le 17 février prochain, en compagnie de la commissaire Nathalie Vallade, qui souhaite vraiment faire connaître davantage cet artiste. Elle est de la famille, d'ailleurs, Nathalie Vallade. Elle est de la famille de Mme Jeannine Leroux-Guillaume. Alors, voilà.
Et pour ceux et celles qui veulent expérimenter la gravure, il y aura un atelier d'impression le 3 février à 14h.
Samedi,
Et aussi, exploration du monotype le 3 mars à 14h également. Évidemment, c'est payant.
Oui, c'est ça. Il y a un prix pour ces ateliers créatifs.